France Musique.
Le journal, Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. C'est ce matin que l'Opéra de Paris présente ses propositions pour aller vers plus de diversité. Le directeur Alexander Neff a missionné Pape Ndiaye, historien, spécialiste des minorités, et Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des Droits. Pendant plusieurs mois, tous deux se sont penchés sur le sujet et leur rapport est très attendu après le manifeste publié l'été dernier, Anne Lamotte.
C'est avec ce manifeste, intitulé « De la question raciale à l'Opéra de Paris » et rédigé notamment par 5 danseurs, que tout commence l'été dernier. Le texte interroge le recrutement à l'Opéra, relève certains propos discriminatoires, pointe certains usages aussi, hérités de l'ère coloniale. Dans la foulée, avant même le rapport d'aujourd'hui, la direction réagit. En décembre dernier, dans la Bayadère, diffusée sur la plateforme numérique L'Opéra chez soi, plus de blackface dans la danse dite des enfants, autrefois dite des négrillons. Et quand le ballet défile, toujours sur internet, lors du gala de l'opéra il y a une dizaine de jours, finit les collants trop clairs et les pointes de satin rose pour les danseuses à la peau noire. Ce dont se félicite Binkadi Emmanuel Yé, chef de projet événementiel à la ROP, l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, auteur également du fameux manifeste.
Pour la première fois, les danseuses métisses et les élèves de l'école de danse métisses ou noire ont des collants et des pointes qui sont adaptées à leur carnation. On le voit, ça se voit, et du coup ça fait plus naturel parce que elles ont des jambes, la couleur des jambes qui correspond à la couleur du haut du corps et de leur visage que l'on voit, donc ça leur fait des lignes plus jolies, mais en même temps ça ne casse pas l'harmonie, ça ne fait pas tomber l'institution tout d'un coup. On se dit mais comment on n'a pas pu y penser avant, c'est une évidence.
Binkadi Emmanuel Yé, qui attend maintenant avec impatience les conclusions du rapport ce matin. « Je veux, dit-il, que l'opéra, cette institution qu'il aime tant, soit aussi moderne et exigeant sur scène qu'en coulisses. »
Les précisions d'Anne Lamotte. Veolia met un grand coup d'accélérateur. Le champion de l'eau et des déchets met près de 8 milliards d'euros sur la table pour acquérir Suez. Une OPA qui marque un durcissement de ton après des mois de tentatives amicales mais infructueuses de rachat. Les explications d'Anne-Laure Jumet.
Plus de temps à perdre pour Veolia, le groupe d'Antoine Frérot a donc décidé de ne pas attendre la prochaine Assemblée Générale de Suez au printemps pour lancer son offre publique d'achat. C'est la seule décision à prendre pour apporter une clarification aux salariés, clients et actionnaires des deux groupes, estime le numéro 1 français de l'eau et des déchets dans un communiqué publié hier soir. Antoine Frérot et le directeur général de Suez, Bertrand Camus, se sont pourtant rencontrés vendredi dernier, mais rien n'y a fait. Depuis fin août, Suez s'oppose aux assauts de son concurrent, estimant que ce rapprochement transformerait de l'or en plomb. Les noms d'oiseaux ont fusé, la bataille s'est aussi déplacée sur le terrain judiciaire. Du côté de Suez, on n'a d'ailleurs pas tardé à réagir hier soir, estimant cette offre illégale et inacceptable sur le plan éthique. Le groupe défendra, dit-il, par tous les moyens les intérêts de ses actionnaires, de ses salariés et de l'ensemble des parties prenantes. L'intersyndicale de Suez parle, elle, de casus belli et indique qu'elle ne laissera pas faire cette folie industrielle qui nous mènera, dit-elle, à de la casse sociale. Veolia réaffirme, lui, que les emplois seront maintenus et compte bien boucler son opération au premier trimestre 2022.
Et les rebondissements sont loin d'être finis dans cette affaire puisqu'à l'instant, la justice ordonne en référé à Veolia de suspendre le lancement de son OPA sur Suez. Affaire à suivre donc. Les rangs des manifestants gonflent en Birmanie. Plusieurs centaines de milliers de personnes défilent en ce moment dans les rues de Rangoon, notamment pour protester contre le coup d'état militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi la semaine dernière. La police fait usage de canaux à eau contre des manifestants et les appels à la grève générale se multiplient alors qu'Internet a été correctement rétabli après un week-end de coupure. Face aux doutes, les experts de l'OMS examinent le vaccin britannique contre la Covid-19, vaccin développé par l'université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca. Plusieurs pays ont déjà déconseillé ce vaccin aux plus de 65 ans, certains même l'ont déconseillé aux plus de 55 ans, faute de données suffisantes. Il a également été suspendu en Afrique du Sud, qui remet en cause son efficacité face aux variants sud-africains du virus. Par ailleurs, depuis ce matin en France, les masques faits maison ne sont plus autorisés dans les établissements scolaires du primaire jusqu'au lycée. Le nouveau protocole sanitaire autorise désormais seulement les masques en tissu de catégorie 1, censés filtrer 90% des particules de 3 microns. Cette catégorie 1 est normalement clairement indiquée sur les emballages en magasin. Un mot de la météo pour finir avec de la neige sur le nord du pays, du soleil pour la Bretagne et le pourtour méditerranéen. et de la pluie partout ailleurs. Les températures dans la matinée vont de moins 3 à Amiens jusqu'à 9 à Perpignan. Par ailleurs, 7 départements toujours en vigilance orange crue et inondations, notamment la Charente et la Charente Maritime. 8h05 sur France Musique, et on retrouve Jean-Baptiste Urbain pour la suite et la fin de Musique Matin.
L'information revient à 13h sur France Musique. Thomas Larabi revient sur France Musique à 7h demain. À demain.
Tout à fait, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.